Les Années-Lumière, édition du 17 mai 2009. Le 77e congrès de l'ACFAS, la fête de la science en français, se passe cette année à Ottawa. Bonjour, ici Yannick Villieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Une édition spéciale parce que enregistrée jeudi midi en public à l'Université d'Ottawa qui accueillait cette année le congrès annuel de l'Association francophone pour le savoir, c'est l'ACFAS, et spéciale aussi et surtout cette édition parce qu'elle est entièrement consacrée à ce congrès, à ses 5000 participants et participantes, à ses 3000 communications et à ses 160 colloques. On va vous résumer tout ça, je vous le jure, dans les deux heures qui viennent. Alors je vais commencer donc cette spéciale avec la présidente du congrès, la biologiste Mona Nemer, et avec le président de l'ACFAS, le juriste Pierre Noreau. Nous allons poursuivre avec vous, Chantal de Srivastava, qui a abordé quand même deux sujets qu'on aborde rarement dans une émission scientifique, la sainteté et la flanelle.
La sainte flanelle, Yannick, les Canadiens oui. de Montréal, et surtout leur influence sur la société québécoise. C'est une flanelle qui est tissée serrée.
Hugues de Rousseau, vous allez nous proposer ensuite un retour aux sources.
Oui, Yannick, quand on parle de sources, on parle bien entendu d'eau, l'eau qu'on appelle aussi l'or blanc, et la gestion de cette eau sera un des grands défis du 20e siècle au pays.
Sophie-André Blondin, vous terminerez la première heure et vous commencerez la deuxième, parce qu'il faut terminer une première heure avant d'en commencer une deuxième. En fin de première heure, vous allez faire dans les sciences dures, Sophie-André.
Oui, dans la chimie, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la catalyse. Puis nous plongeons dans le monde de Tintin, histoire de comprendre quelles sortes de sciences ont percolé jusque dans les aventures du célèbre reporter.
Alors, je poursuis cette deuxième heure avec de la biologie fondamentale. Je vais être sérieux, moi. Hein. Je vais regarder avec mon invité comment fonctionne le génome des organismes vivants. Donc, on sait que ce n'est pas seulement une affaire de gènes. Puis, on va retourner avec vous, Hugues de Roussan.
L'imprimerie, Yannick, il y a 500 ans, avait changé la face du monde. Le cyberespace le fera encore davantage. Comment? Il y a des hypothèses. On ne sait pas vraiment, mais tout semble possible.
Et on va retourner ensuite à vous, Chantal, pour terminer.
Le travail, c'est la santé, nous dit l'adage. Eh bien, il y a pourtant souffrance au travail. On en a parlé dans le cadre d'un colloque ici cette semaine, Yannick.
Tout ça pour cette édition spéciale ACFAS 2009. Alors, le thème de ce 77e congrès de l'ACFAS était « La science en français, une affaire capitale ». Et ça se passait, on l'a dit, dans la capitale nationale canadienne, Ottawa. Alors, pour discuter de ce thème et un peu plus, bien sûr, j'ai avec moi la présidente du 77e congrès de l'ACFAS, qui est aussi vice-rectrice à la recherche de l'Université d'Ottawa, Mona Nemer. Bonjour, Madame Nemer.
Bonjour, Yannick.
Et le président de l'ACFAS, Pierre Noreau, professeur de droit à l'Université de Montréal. Bonjour, Pierre Noreau.
Bonjour, Yannick.
Alors, Mme Nemer, je vais commencer avec vous. La science en français dans une université comme l'Université d'Ottawa, ça veut dire quoi? Ça se vit comment?
Ça se vit tous les jours. De fait, 30% de nos étudiants sont francophones. La majorité de nos professeurs sont bilingues. Et donc, le français est très vivant et c'est une réalité de tous les jours.
Et on enseigne en français aussi, pas seulement faire de la recherche, mais enseigner aussi, oui?
Oui, absolument. Il y a des cours donc, de sciences, de génie, de médecine qui sont en français. Puis, en parallèle, on a la même chose en anglais.
Mm-hmm. Alors, c'est un vieux débat, cette histoire de sciences en français, mais c'est quand même normal de publier en anglais, de communiquer en anglais. C'est la lingua franca de la science, l'anglais. Hein. Vous, par exemple, Mona Nemer, vous publiez en anglais?
Ben, écoutez,
allez.
Oui. Ben, écoutez, l'anglais, c'est la langue internationale, c'est devenu la langue internationale de la science après la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'empêche pas que nous travaillons quand même en français avec nos équipes, etc. L'anglais n'a pas toujours été la langue dominante de la science. Et qui sait, dans quelques années, ça ne le sera peut-être plus.
Oui, vous pouvez apprendre le mandarin, probablement.
Hein. Possiblement.
Donc, publier en anglais, c'est normal. Pierre Noroux, quand on regarde ça, cette question du côté des sciences humaines, est-ce que l'anglais, la position de l'anglais scientifique, langue des sciences, langue de communication, c'est la même chose ou vous êtes en droit, hein, par exemple?
Oui, ben, je suis en droit, je suis en sociologie du droit, en fait. Hein, donc, dans le domaine des sciences sociales humaines, ça se pose également. Mais il est vrai, qu'il y a quelque chose de connoté culturellement dans le travail intellectuel, et c'est vrai de n'importe quelle discipline, mais c'est peut-être plus évident encore dans les sciences humaines et sociales. Et donc, il y a une distinction très net à ce chapitre-là, sur la façon d'avoir la connaissance.
Vous publiez en français ou en anglais?
Je publie essentiellement en français, mais je trouve que c'est... Ce qui est important, en fait, c'est de penser en français, c'est de travailler en français, et quand il s'agit de diffuser, bon, je pense qu'il faut que ce soit le plus largement possible. Mm-hmm. Alors, je diffuse essentiellement en français, mais une bonne partie de ce que je publie est traduit en anglais, parce que je ne vois pas pourquoi j'en priverais ceux qui ne connaissent pas encore le français.
La vaste communauté mondiale. Monane Aimer, justement, quand on parle de sciences sociales, parce que vous êtes vice-rectrice... à la recherche ici, donc aussi bien du côté des sciences biologiques, sciences fondamentales, sciences dites exactes, que des sciences humaines. Du coup, vous, est-ce que vous voyez une différence de problématique, au fond, du français scientifique dans les deux grands domaines?
C'est clair là, qu'il y a une différence, parce que par définition même, les sciences sociales et humaines, souvent sont plus locales, si vous voulez, que les sciences naturelles et les sciences de la vie ou les sciences de la santé. Et donc, il y a une composante quand même importante là, finalement, de la communauté, de la collectivité à laquelle on veut s'adresser.
Oui. Alors, dans un colloque, j'étais hier dans un colloque de biologie, puis j'ai entendu, il y avait un jeune chercheur français qui arrivait là, un chercheur qui travaille en Angleterre, mais qui disait... Merci de me permettre de présenter ma conférence en français parce que même en France, dans un congrès français national de bioinformatique, on nous a demandé de présenter nos diapositives et nos communications en anglais. Est-ce que la France, Monane Aimer, est en avance ou en retard sur nous?
Écoutez, je vais vous laisser. Certainement que si les gens vont à un congrès francophone, ils doivent quand même s'attendre à entendre des conférences en français. Il n'y a pas de doute, il ne faut pas exagérer. Mm-hmm. Si on va dans un congrès international, c'est clair qu'il y a des gens qui ne parlent pas le français. Et donc, si on veut que la majorité comprenne, il faut peut-être parler la langue que la majorité comprend.
Mais vous allez souvent, vous avez justement des échanges avec la France. Et vous ne trouvez pas qu'en France, on appuie un peu beaucoup sur la pédale de l'anglais, de la communication en anglais, on force l'anglais, et comme dans ce colloque-là, qui est un colloque national, on disait aux gens, vous devez présenter en anglais.
Ben, disons que le Canada et certainement le Québec, et le Canada français sont en avance, je dirais, sur la France.
l'ambassadeur de France n'est pas là, il ne nous écoute pas, mais Pierre Noroux là-dessus?
Oui, mais je pense qu'il y a aussi une limite à ce qu'on peut faire dans ce cadre-là. Vous savez, l'anglais qui se parle dans les colloques entre collègues dont l'anglais n'est justement pas la langue première, c'est ce qu'on peut appeler l'anglais de base. Hein. Et cet anglais de base, il est assez pauvre, en vérité. C'est ce qui faisait dire un jour à Yvon Deschamps que la langue la plus menacée dans le monde, c'était l'anglais, parce que c'est une langue qui était si mal parlée.
Plus maltraitée, en tout cas.
Et je crois qu'il y a une limite à la communication dans une langue qui n'est pas celle dans laquelle on a été formé. Et conséquemment, je crois qu'il va y avoir éventuellement un retour à l'usage d'avant... plus important de la langue dans laquelle, au fond, le travail se fait. Parce que la précision du langage et de la pensée, c'est tout de même quelque chose qui fait partie du travail intellectuel.
Donc, le combat de l'ACFAS pour le français en sciences, j'avais écrit, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde, point d'interrogation, vous répondez quoi en un mot?
Non, jamais.
Alors, cela dit, que ce soit en français ou en anglais, la science, ça prend des sous, ça prend de l'argent. On connaît le contexte de diminution des investissements du gouvernement fédéral en sciences. Mais le gouvernement parle au contraire d'une augmentation des budgets. Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses? Je ne sais pas lequel des deux vous nous expliquez en deux mots, Monane Aimer, peut-être?
Ben, écoutez, il faut quand même se souvenir là, que pour faire de la recherche, ça prend des infrastructures, ça prend du personnel, donc des bourses d'étudiants, des bourses de chercheurs, et ça prend également des fonds d'opération pour pouvoir acheter du matériel, etc. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Investir, donner des fonds à des gens qui n'ont pas d'espace, ça ne donne rien. Donner des espaces sans donner des fonds d'opération, ça n'aide pas beaucoup. Alors là, cette année, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a décidé finalement de parer au problème des infrastructures. Mm-hmm. C'est une décision qui est évidemment bien accueillie par les universités où on a de l'infrastructure qui est en train de s'écrouler. Mais ceci étant dit, il faut quand même que les chercheurs puissent travailler.
Il y a des gens dedans, oui.
Et d'autant plus que le gouvernement a accordé encore plus de bourses d'études supérieures, donc plus de doctorants, plus de gens qui font la maîtrise, le postdoc. Et donc, on va avoir encore plus de personnes qui ont besoin de sous.
Mmh. Et on ne les aura pas parce qu'on choisit, disons, plus le béton que... Les cerveaux, c'est ça?
Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un choix, un ou l'autre.
D'accord.
Là, les deux doivent aller de pair.
Mais on va vous dire, si on est en période de crise économique, il faut bien serrer un peu la ceinture. Puis c'est normal de couper les budgets de la science. Pierre Neuro, est-ce que finalement, c'est pas un bon argument quand même?
Non, puisque les Américains, dans une situation équivalente, font un choix complètement différent. Ils décident d'aller de l'avant et en fait d'investir parce qu'ils savent bien qu'après la crise, il y aura l'après-crise. Et l'après-crise, bien... C'est notre avenir. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour plus tard. Si on veut répondre en coupant dans la recherche et dans les fonds qui sont destinés à la recherche elle-même, immédiatement en pensant qu'on sauve de l'argent, c'est une erreur monumentale.
Alors, les grands conseils de recherche fédéraux, ceux qui allouent les subventions de chercheurs, curieusement, se sont dit satisfaits de leur budget. Est-ce que vous comprenez leur réaction, Pierre Moreau?
Oui, tout à fait, parce que ce sont des organismes dont les budgets dépendent justement du gouvernement fédéral.
Mais ils sont autonomes, normalement.
Oui, mais du point de vue de la critique des budgets qu'ils reçoivent, ils sont tenus à une certaine retenue. D'ailleurs, ils exercent cette retenue. Et c'est de la communauté scientifique qui doit se mobiliser. Ce ne sont pas les fonds de recherche. Et je pense qu'on assiste actuellement, dans ce sens-là, à une modification de la culture à l'intérieur du milieu scientifique. Je pense que les chercheurs comprennent maintenant la nécessité, eux, d'aller à la défense de la recherche comme activité sociale spécifique et nécessaire au développement de la société.
Mona Nemer, vous diriez ça aussi, que les chercheurs se mobilisent, les universités peut-être aussi se mobilisent, puis commencent à dire « allô, allô, on n'est pas content ».
Ben, écoutez, puis je crois que c'est toute la population qui doit se mobiliser, parce que penser que couper dans les investissements à la recherche, c'est des économies, c'est mal réaliser l'importance de la recherche pour le présent et pour l'avenir du pays. On est en train de former les gens qui vont assurer notre prospérité dans 10, 20 et 30 ans. Donc, c'est vraiment pas le moment d'éliminer les subventions, d'éliminer le support là, à la formation des leaders de demain.
Alors, Mona Nemer, présidente du 77e congrès de l'ACFAS et vice-rectrice à la recherche de l'Université d'Ottawa, je vous remercie beaucoup.
Merci, Annie.
Et Pierre Neuro aussi, donc professeur de droit à l'Université de Montréal et président de l'ACFAS. Votre congrès est presque fini. Merci beaucoup. Alors, parmi les quelques 160 colloques et activités spéciales qui ont eu lieu cette semaine à l'ACFAS, il y a un thème qui a particulièrement retenu votre attention, Chantal Srivastava, et j'ai nommé le thème des Canadiens de Montréal. Alors, je ne savais pas que vous, une petite Srivastava de la ville de Québec et des Nordiques, je ne savais pas que vous étiez à ce point maniaque du CH.
Vous n'allez quand même pas me demander de me mouiller ici, Yannick.
Oui.
Nous sommes tout de même à Ottawa,
oui,
la patrie des sénateurs, dans tous les sens du mot. D'autant plus que je viens de Québec, donc je vais m'abstenir, si vous permettez de dévoiler mon allégeance profonde. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça, tout le monde le sait, si on revient aux Canadiens de Montréal, ils ont cette année, au grand dam de leurs partisans, fait long feu dans les séries, une déception qui est d'autant plus grande que cette année, on se préparait en grande pompe à célébrer un grand anniversaire, le centenaire des Canadiens de Montréal. Surtout qu'au cours de ce siècle, Yannick, les Canadiens ont profondément marqué la société québécoise. Alors, à un point tel qu'un colloque sur ce thème a été organisé cette année à l'ACFAS. Et pour en parler, j'ai invité les deux sociologues qui sont responsables de l'événement, Nicolas Moreau, Audrey Lorrain-Lamotte. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors Nicolas, vous êtes post-doctorant au laboratoire de sociologie de l'activité physique et du sport, donc on voit le lien avec le hockey, mais également vous êtes fait partie de l'équipe de chercheurs donc en psychiatrie transculturelle dans un centre de santé interuniversitaire, celui de l'Université McGill. Audrey, vous êtes candidate à la maîtrise au département de sociologie de l'UQAM.
Exact.
Je vous pose la question de base, pourquoi un colloque sur les Canadiens regardés d'un point de vue sociologique? Il y a tant à dire pour qu'on en parle durant toute une journée?
En fait, nous, on a commencé à penser le colloque au mois de septembre, au moment où...
La rentrée, où tous les espoirs étaient permis.
C'est ça, où tout le monde a... On voulait un peu fêter le centième à notre manière en tant que chercheur. Puis on s'est dit, pourquoi pas inscrire ça à l'ACFAS? En plus, à Ottawa, ça risque d'être drôle.
Est-ce que vous riez autant aujourd'hui?
Les sénateurs ne sont pas là non plus, par exemple.
Bon, d'accord.
Puis en tant que... Bon, moi, comme vous l'entendez à mon accent, je suis migrant et j'ai toujours été frappé par le hockey comme facteur d'intégration.
Le hockey sur glace, hein, c'est bien ça? Oui, d'accord.
Et donc, vous êtes ici depuis une dizaine d'années et ça vous a frappé de voir le rôle que jouait le hockey chez nous?
C'est ça. Quand je vais au Centre Bell, je suis toujours étonné de voir... pas étonné, mais de voir des personnes d'origine haïtienne, des personnes d'origine arabe, etc. à côté de moi. Puis je me dis, c'est quand même intéressant de voir que le hockey peut être facteur d'intégration. La dernière fois, Montréal Nord, j'ai vu aussi des filles voilées qui jouaient au hockey. Puis je me dis, c'est intéressant. En même temps, c'est aussi un facteur d'exclusion. C'est-à-dire que c'est un sport qui est joué par une majorité de blancs. Simplement pour vous dire que dans les sports américains, on retrouve 80% par exemple de joueurs noirs dans la Ligue nationale de basket, 65% à peu près dans la Ligue nationale de football, 16% dans la Ligue majeure de baseball, et seulement 3% dans la Ligue de hockey.
Pourquoi? Est-ce qu'on a des hypothèses d'un point de vue sociologique? C'est un milieu qui est plus fermé, l'équipement est plus cher, plus difficilement accessible. Est-ce qu'on a des pistes?
Il y a des sociologues du sport américain qui ont travaillé énormément sur cette question et ça serait très vaste et j'aurais besoin d'une heure à vous l'expliquer.
Un colloque complet.
Mais il y a des facteurs culturels, bien évidemment. Il y a des facteurs financiers, bien évidemment. Il y a des facteurs structurels, systémiques. C'est une question très complexe, mais simplement... Moi, je me suis juste posé la question de voir que les Canadiens étaient un facteur en même temps d'intégration et en même temps d'exclusion. Puis moi, d'un point de vue plus personnel par rapport à ma pratique sociologique, je suis spécialisé en santé mentale.
C'est quoi le rapport?
C'est que je considère que... pour expliquer en fait ce qu'est un individu normal, donc ce qu'est la norme sociale, les comportements exigés, voulus, il y a deux façons pour l'analyser. Soit par les individus dépressifs qui codent quelque part la norme en creux, c'est-à-dire dans une société, par exemple, où la motivation est très importante, où le projet est très important, les individus dépressifs sont
des gens... On a de la misère à s'intégrer.
On a de la misère à formuler des projets, on a de la misère à être motivé, etc. Tandis que les sportifs sont des modèles d'excellence, en particulier les hockeyeurs. Et par exemple, dans une société où l'autonomie est très importante, et le hockeyeur cristallise cette autonomie, cristallise cette performance. Donc, c'est deux facettes dont je me sers pour finalement comprendre la réalité sociale. Mmh. D'où mon intérêt autant pour personnes dépressives que pour les hockeyeurs. Et des fois, c'est les deux.
Alors Audrey, je me tourne maintenant vers vous. Parmi les thématiques, il y a celle que Nicolas vient d'aborder, mais il y a également beaucoup d'autres choses qui illustrent un peu le rôle que le hockey a joué au fil des ans dans la société québécoise. Francophone, du point de vue culturel, économique, et j'en passe. Pouvez-vous me donner un aperçu des thématiques?
La première thématique, disons, qui va ouvrir le colloque, c'est justement celle qui veut réfléchir un peu sur le lien entre le scientifique et les phénomènes plutôt populaires. Donc, pendant longtemps, il y avait un certain dédain dans le milieu scientifique pour l'analyse et la compréhension d'objets plus populistes.
La culture populaire.
Exact. Et c'est entre autres le mouvement des Cultural Studies aux États-Unis qui a fait
en fait, évoluer cette pensée. Et donc, c'est Fanny Valois-Nadeau qui va débuter donc avec une analyse culturelle de la réception du Canadien comme mythe. Donc, comment, en fait, les partisans qui inscrivent leurs commentaires sur les forums de RDS...
Et ils sont très nombreux.
Oui, exact. Tricotent, bricolent et s'approprient le mythe et la marque aussi du Canadien. Donc, il y a un peu cette thématique-là. D'un autre côté, on retrouve aussi des gens qui, à partir de la phrase « La ville est hockey », se questionnent
slogan,
sur l'identité, en fait, d'une ville à l'heure où il y a des grandes constructions sportives, donc en Amérique du Nord. Et aussi, on peut se demander si le hockey est un facteur de refoulement des foules.
Ou de défoulement,
à ce moment-là,
parfois,
exact,
pour le meilleur et pour le pire.
Que reste-t-il de la ville si elle est hockey? Donc,
Également, d'un point de vue sociologique, par rapport à l'évolution du fait français au Québec, les Canadiens ont joué un rôle clé. On n'a qu'à penser à Maurice Richard, on n'a qu'à penser également à la façon dont certains Canadiens d'origine francophone ont vraiment pu avoir leur place au soleil, leur gloire, grâce au hockey. Peut-être pas aussi nombreux que chez les anglophones, mais ça joue également un rôle social.
Absolument. Cette thématique va surtout être analysée au tournant de l'émeute et de l'affaire Richard Campbell. Donc, on va réfléchir
dans les années 50,
sur... Oui, dans les années 50. Donc, on va réfléchir sur l'émeute comme, disons, élément déclencheur de la Révolution tranquille. Donc, en même temps, ça a été un moment aussi d'émancipation pour les Québécois. Et donc, on peut voir là, facilement le lien où ce qu'incarnait Maurice Richard à une époque où l'identité, elle était peut-être plus négative ou en tout cas vécue de façon plus négative.
Aujourd'hui, pour les francophones, les Canadiens sont un tremplin en termes de hockeyeurs professionnels. Est-ce que sur papier, je vous avais une présentation là-dessus? C'est pas aussi clair que
oui,
ça, hein?
Monsieur Marc Lavoie, qui est professeur d'économie ici à l'Université d'Ottawa, qui va faire sa présentation là-dessus et lui montre que finalement, il existe encore aujourd'hui une discrimination envers les francophones dans la Ligue nationale de hockey et plus spécifiquement chez les Canadiens de Montréal. Donc autrement dit, à talent égal, on préfère encore des anglophones. Après, on peut l'expliquer par des problèmes de communication, etc., dans le vestiaire. Et aussi, il a montré que, par exemple, on prend le cas de Guillaume Latendresse ou Maxime Lapierre, c'est des gens qui rapportent beaucoup d'argent en termes de vente de t-shirts, etc. Et leur salaire, il n'y a pas de lien, si vous voulez, entre cette vente de produits dérivés et le salaire. Il y a aussi une autre conférence dont je voulais parler, c'est celle de Benoît Melançon qui a écrit Les yeux de Maurice Richard et qui va nous parler, qui fait une analyse des chansons des chansons depuis les années 50 qui ont trait aux Canadiens de Montréal. Et lui, il montre simplement, très rapidement, qu'avant 1970, on retrouve dans les chansons une proximité entre les partisans et l'équipe et qu'après 70, après 1970, on assiste à un éloignement.
Nanana et goodbye, c'est ça?
Cet éloignement se fait, de trois façons. C'est de la nostalgie, autrement dit, c'était mieux avant. Par rapport à l'argent, les joueurs sont trop payés. Alors qu'Audrey va vous dire que finalement, c'est une thématique qu'on retrouvait dès le début du club. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et aussi au niveau de la méfiance. Par exemple, il y a une chanson où on dit explicitement « Les Russes sont différents des Québécois ».
D'accord.
Donc, lui fait une analyse par rapport aux chansons qui est aussi un terrain tout à fait original.
Alors, un colloque pour les mordus, un colloque pour les sociologues, pour les fans de sport, il y a tellement à dire. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'être venus partager.
Et je rappelle, Chantal, donc, le nom de vos invités, Nicolas Moreau du laboratoire de sociologie de l'activité physique et du sport à l'Université de Montréal et Audrey Lorrain-Lamotte du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Merci à vous deux.
Merci.
Merci, au plaisir.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Il est également en diffusion par satellite sur la chaîne Première Plus dès samedi 17h et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière avec Yannick Villedieu.
Alors, je me tourne maintenant vers Hugues de Roussan. Hugues, on a parlé du hockey, mais il y a aussi le handball. Je vous jure que c'est important.
Ce sera pour le colloque l'an prochain.
Parce que Hugues, il faut le dire, est un grand olympien du handball. Hein?
Oui, ça fait longtemps quand même.
Oui, c'est vrai, ça fait quelques années, quelques semaines. Alors, on va parler d'eau hein, maintenant, cet or bleu du 21e siècle, mais non pas blanc.
Et non pas blanc, hein.
C'est ça. Déjà, l'eau est la cause, on le sait, de plusieurs conflits à travers le monde, en Afrique, au Proche-Orient. Au Canada, on trouve les réserves d'eau douce les plus importantes de la planète. Elles sont source de convoitise, bien sûr, nos eaux, par nos voisins du Sud, les États-Unis. L'eau sera l'un des grands défis du Canada au 21e siècle, Hugues de Roussan.
Oui, longtemps ici au Canada, on a vu l'eau comme une ressource qui était quasiment inépuisable, un peu comme le bois l'était. Et ça a mené certains comportements qui ont entraîné pollution et gaspillage. Mais il y a quand même une prise de conscience qui s'installe tranquillement, d'autant plus que l'eau commence à être perçue comme une source importante de revenus. On appelle l'or blanc quand on fait référence à l'or noir qui est le pétrole. On sait que le pétrole amène beaucoup d'argent. Donc, la gestion de l'eau sera un des défis du Canada. Pour en discuter, nous avons avec nous Michel Robin, qui est hydrogéologue et aussi directeur du département des sciences de la Terre à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Robin.
Bonjour.
Alors, M. Robin, le Canada ne manque pas d'eau, en tout cas, ne manque pas d'eau douce. Est-ce qu'en fait, c'est un heureux problème? En fait, est-ce que ce n'est pas un problème? On en a trop?
Bien, c'est un heureux problème dans le sens qu'on en a trop, en fait, à certains endroits. Faut qualifier. Là. Certainement, dans l'Est de l'Ontario et dans de grandes parties du Québec, on a un excédent d'eau et généralement, les agriculteurs doivent drainer leur territoire pour pouvoir pratiquer l'agriculture. Par contre, ailleurs au pays, il y a des pénuries d'eau et donc c'est un problème de distribution autant qu'un problème de gestion.
Pour avoir de l'eau potable, est-ce qu'il faut intervenir en amont, c'est-à-dire prévenir la pollution des eaux? Ou en aval, c'est-à-dire filtrer et puis l'eau dans des usines de filtration très coûteuses pour qu'on ait de la bonne eau dans le robinet. Où on doit se situer?
En fait, on doit faire tout. C'est un système qu'on préconise maintenant, les scientifiques, à multiples tampons qu'on appelle. Alors, un des premiers tampons, c'est essentiellement prévenir la pollution. Alors, ça coûte bien moins cher de sauver la pièce que de la... qu'elle est obligée de la gagner par après. Alors, la première chose à faire, c'est d'éliminer les problèmes à la source. Et un deuxième aspect du système à tampons multiples, c'est si, oui, en effet, il y a un problème de pollution, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème, pour y pallier, ou pour amener une solution à long terme, ou carrément chercher d'autres sources d'eau. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Et l'étape finale est tout simplement de regarder qu'est-ce qu'on peut faire si on a de l'eau qui serait possiblement contaminée, comment la traiter, cette eau-là. Alors, on se sert de tous ces outils-là pour pouvoir provoir des eaux potables.
Il y a une théorie économique qui veut qu'on pourrait utiliser la capacité régénératrice de l'eau pour s'en servir comme facteur de dépollution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire permettre un certain niveau de pollution de l'eau parce que, de toute façon, la nature va régler le problème à plus ou moins long terme.
On fait ça d'emblée. Tout simplement, même les eaux naturelles, certaines eaux naturelles ont des niveaux de ce qu'on appellerait des contaminants dans certains autres endroits. Il y a toujours des éléments dissous dans l'eau. L'eau est un solvant extraordinaire, peut dissoudre un grand nombre d'éléments. Et donc, de par sa nature, il y a toujours des éléments dans cette eau-là. Alors, il y a des éléments qui sont nocifs et il y en a d'autres qui sont là, qui vont affecter tout simplement le goût, l'aspect qualitatif, l'aspect goût de l'eau.
Justement, en parlant de goût et d'aspect qualitatif, on dit ici au Canada que les eaux municipales sont parmi les meilleures au monde. Est-ce qu'en fait, elle est vraiment bonne, cette eau? Est-ce qu'elle est assez bonne pour qu'on puisse la vendre telle qu'elle?
Ah, il y a plusieurs questions dans votre question.
On va commencer par la première. Est-ce que l'eau est bonne?
L'eau est excellente. En fait, j'ai devant moi un bon verre d'eau. Je pense que je vais en prendre une gorgée. Oui, en fait, l'eau est de très bonne qualité. Elle est bonne au goût aussi. Comparativement à bien des endroits. Alors, mais ça varie énormément d'un endroit à l'autre. Généralement, les eaux municipales sont très, très sécuritaires. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même, je dirais, j'oserais dire, plus que certaines eaux en bouteille.
Oui, ça amène la question toujours, est-ce que ça vaut la peine d'acheter de l'eau en bouteille?
Moi, j'en achète seulement quand je dois me trimballer en auto puis que je n'ai pas d'autre accès, mais normalement, c'est l'eau du robinet.
Si on faisait un test comparatif entre une eau en bouteille et une eau de robinet, par exemple, de la ville d'Ottawa, qui gagnerait?
La grande question serait à quelle température. Ça fait drôle à dire, mais je peux ouvrir une parenthèse. Chaque année, je fais un test dans mes cours d'hydrogéologie et j'achète une vingtaine de bouteilles d'eau et je fais goûter la classe à l'aveuglette, là. Et généralement, les eaux les moins qui contiennent le moins de sel remportent, OK? Et une année, je me suis trompé, j'avais oublié de mettre de l'eau de la ville d'Ottawa, et j'ai pris l'eau fraîchement du robinet, qui était plus froide que le reste, et c'est l'eau du robinet qui a remporté haut la main. Donc, la température, il fait énormément.
Au Canada, 70 % des puits artésiens sont contaminés par des bactéries provenant de la surface, des eaux d'écoulement de surface. Est-ce que c'est un problème qui est gérable, qu'on peut régler?
Je ne sais pas d'où vous tenez la statistique. Je sais que c'est le cas dans l'Est de l'Ontario, mais je ne sais pas si c'est
vrai. Je la tiens dans votre colloque.
Ah, OK. Ça s'appliquait à l'Est de l'Ontario. Au reste du pays, je ne peux pas vous dire exactement quelle est la statistique, mais certainement, une grande partie des puits que l'on dit artésiens, qui techniquement ne le sont pas, artésiens, des puits domestiques, sont en fait contaminés par des bactéries. Chaque puits a son ensemble de bactéries et ça donne que les gens s'habituent à leur famille de bactéries. Un peu comme au Mexique, les gens s'habituent à leur eau. Si vous allez au Mexique, il faut faire attention à ce que vous buvez. La même chose, mais un état un peu moindre dans les puits de la région. Alors, oui, il y a toujours un certain montant de bactéries. Souvent, c'est introduit par le foreur. Et souvent, c'est introduit par des scellements fautifs. Alors, un puits, normalement, un cuvelage, un tuyau, que l'on doit sceller contre la terre autour pour empêcher les eaux de surface de contaminer l'eau du puits.
Est-ce que ici au Canada, on a une espèce d'éveil de conscience de l'importance de l'eau? Parce qu'éventuellement, une partie de cette eau sera vendue aux États-Unis. Est-ce que Walkerton, par exemple, a changé la conscience qu'on a de l'eau?
Absolument. Walkerton a été la force motrice en Ontario, en tout cas. Des changements majeurs à la législation en ce qui concerne la protection des sources. Depuis Walkerton, il y a eu, qui s'est passé quand même en 2000,
à l'an
2000, il y a eu énormément de changements, notamment une prise de conscience, évidemment, et aussi beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits par les hydrogéologues de la province au complet. Ouais.
Monsieur Robin, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est un grand plaisir.
Alors, je rappelle donc le nom de votre invité, Huguin, Michel Robin, hydrogéologue, directeur du département des sciences de la Terre, de l'eau, donc, à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Les années-lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, une émission spéciale enregistrée jeudi devant public à l'Université d'Ottawa dans le cadre du 77e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Catalyse maintenant, la catalyse, le rapprochement forcé des éléments, un procédé qui est vieux comme le monde, en tout cas vieux comme la chimie, mais la chimie elle-même est sans doute vieille comme le monde. Alors Sophie-André Blondin, vous allez nous faire entrer dans le monde des chimistes par la petite porte de la catalyse.
Oui, la porte est petite, mais le monde finalement, Yannick, il est vaste et grand, parce que la catalyse, elle est partout autour de nous en ce moment même. Il y en a dans le moteur de votre auto, dans les polymères de votre canot, dans vos médicaments, dans vos aliments aussi. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes cernés par la catalyse, qui est quand même un vieux procédé bien éprouvé, mais il s'agit d'une science qui est en évolution, qui est perfectible. Et pour nous en parler, j'ai invité André Beauchemin, Jasmin, qui est professeur adjoint au département de chimie à l'Université d'Ottawa ici et qui est affilié au Centre de recherche et d'innovation sur la catalyse. Bonjour, M. Beauchemin.
Bien, bonjour.
Alors, vous avez organisé un colloque ici à l'ACFAS qui réunissait des gens de toutes sortes de domaines qui s'intéressent à la catalyse parce que les applications, elles sont multiples. Mais vous, là, dans une soirée de famille, quand vous expliquez votre passion pour la catalyse, vous l'expliquez comment, la catalyse?
En fait, de façon très simple, c'est relié à la passion pour la chimie, donc de faire des molécules. Moi, c'est les produits naturels, c'est les molécules bioactives qui m'intéressent. Et la catalyse est un outil exceptionnel pour me permettre non seulement de fabriquer ces molécules-là plus efficacement, mais des fois de les faire d'une façon complètement différente et plus abordable.
Et pour fabriquer ces molécules, il faut mettre ensemble des éléments qui ne veulent pas être mis ensemble. Vous êtes une sorte de marieuse, une entremetteuse.
Oui. En fait, ça m'arrivait plus souvent avant, mais disons qu'il y a une grande variété de réactions chimiques qui sont très, très difficiles, voire impossibles. Et le rôle des catalyseurs, que ce soit des enzymes dans les systèmes biologiques ou des complexes qui comportent à la fois des métaux et des parties organiques, le but de ces catalyseurs, c'est de faciliter, de permettre ces réactions-là. Idéalement, c'est de faire une réaction qui est rapide, sans déchets secondaires, et très, très efficace.
Bon, c'est un procédé qu'on maîtrise depuis très longtemps. C'est aussi vieux que la chimie. Vous l'avez dit, Yannick, la chimie, elle est plutôt vieille. Qu'est-ce qu'il reste à apprendre et à perfectionner pour la catalyse?
En fait, il y a l'aspect fondamental. Donc, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore. Moi, je suis toujours étonné de voir à quel point, en lisant la littérature scientifique, parfois, il y a des découvertes qui changent complètement le terrain, finalement, des possibilités qu'on peut faire, des possibilités synthétiques, de fabrication de nouveaux matériaux, etc. Puis, il y a plein de domaines émergents en catalyse. Donc, c'est aussi un outil qu'on peut servir pour régler des problèmes en environnement, en santé, au niveau des changements climatiques, au niveau de l'énergie, de la pétrochimie, etc.
On vient de parler de l'eau contaminée, entre autres. C'est le rôle des chimistes et parfois de la catalyse que d'aider à décontaminer certaines formes de contamination.
Tout à fait. Tout à fait.
Si on donnait des exemples aux gens, j'ai dit on est cerné par la catalyse. Dans le moteur de notre auto, bon, il y a le convertisseur catalytique. Qu'est-ce qu'il fait de force aux éléments, le convertisseur?
En fait, un des sous-produits très nocifs de la combustion, c'est le monoxyde de carbone. Et en fait, ce que les catalyseurs catalytiques font, c'est qu'ils transforment notamment le monoxyde de carbone, mais aussi les oxydes d'azote, en molécules beaucoup moins nocives. Donc, en fait, c'est une pièce essentielle de l'automobile et c'est une pièce sans convertisseur catalytique. Ça serait incroyable de travailler au centre-ville, finalement.
Ça, c'est sur l'auto. J'ai dit à la maison, on en trouve aussi dans nos batteries de cuisine pour faire certains matériaux. On a besoin de la catalyse aussi.
Oui, en fait, on peut parler de polymères. Au niveau des applications spécifiques, il y a plein d'applications au niveau de l'emballage des produits. Idéalement, on veut que ces emballages-là soient biodégradables. Il y a différents revêtements qu'on prend pour acquis, le Teflon, mais le Teflon, en fait, c'est un polymère d'une molécule qui est un gaz à la base.
Il a fallu, en quelque part, forcer des molécules, forcer des éléments à s'unir pour les fabriquer. Évidemment, quand on parle de catalyse perfectible, c'est qu'on veut une catalyse qui se déroule plus rapidement, plus efficacement et peut-être plus proprement aussi, parce que parfois, il y a des conséquences. On a choisi des procédés qui avaient des effets négatifs sérieux.
Oui, en fait, c'est très difficile de créer des processus parfaits. Et il y a tout l'aspect d'optimisation des processus catalytiques qui peuvent... Donc, évidemment, il y a un avantage économique là-dedans, mais il y a aussi un avantage d'avoir tout simplement moins de déchets par la suite et de faire les choses dans un but qui est la perfection, finalement.
Oui, parce qu'il y a des catalyses catastrophiques. On peut donner un exemple, et on peut le donner dans l'assiette des gens qui nous regardent en ce moment, d'une catalyse qui a eu des conséquences assez catastrophiques et qu'on essaie en ce moment de régler.
Bien, en fait, souvent, il y a des polymères, par exemple, qui sont des matériaux d'emballage très peu biodégradables. Ça persiste dans l'environnement. Par contre, il y a beaucoup de polymères qui, maintenant, sont biodégradables et c'est des produits qui n'étaient pas disponibles il y a quelques années et c'est des innovations, dans le fond, c'est de la recherche fondamentale qui
avait
lieu.
Comme les emballages des lunchs ici sont biodégradables, alors c'est pas le fameux styromousse. Et dans l'assiette, il y a aussi des conséquences à certains procédés catalytiques. Je pense aux gras trans, par exemple. Gras trans, c'est ça, c'est une conséquence d'une catalyse.
Oui, en fait, parce que souvent, si on regarde les étiquettes, on voit les gras insaturés, les gras saturés aussi, qui nous permettent de donner la structure aux aliments. Et ça, Dieu sait que c'est important, aussi pour le plaisir.
Mais quand ça se tient,
mais par contre, si on veut, par exemple, hydrogéner, donc transformer un gras insaturé en gras saturé, habituellement, on part de doubles liaisons carbone-carbone, qui sont des doubles liaisons insaturées, et on fait quelque chose qui... En fait, on fait l'hydrogénation, donc on transforme ça en gras saturé. Par contre, un sous-produit de cette réaction-là, ça se trouve à être une double liaison trans qui ne peut pas être métabolisée aussi facilement, puis qu'il y a d'autres propriétés.
Et qu'il y a des conséquences sur notre santé, maintenant, on s'en rend compte. Donc, on cherche à améliorer les procédés, à trouver une façon, par exemple, d'hydrogéner certaines huiles sans créer ces fameux gras trans. C'est donc du monde de la nutrition, la chimie des aliments qui les questions là. Vous avez organisé ce colloque, ça réunissait des gens d'un peu partout. J'ai assisté à une conférence. On a parlé au début de l'émission du fait de faire de la science en français. J'ai pas compris grand-chose, c'était en français, mais c'est plus en chimie, finalement, les conférences que vous faites. Qui sont les gens qui s'intéressent en français à la catalyse ici aujourd'hui?
En fait, c'est drôle parce qu'on avait des chercheurs de France. On avait un chercheur qui était français à la base, mais qui a été recruté par l'Université de Californie, Riverside, qui est un excellent scientifique. On avait des gens d'à peu près tous les universités au Québec. Oui, on avait un chercheur d'Australie aussi qui venait. Et finalement, ça démontre que cette science-là est faite par une variété de scientifiques et que c'est possible de faire de l'excellente catalyse en français. Il y a des chercheurs à la fine pointe de ce qui se fait dans le domaine qui sont francophones. Puis c'est une bonne façon pour nous de transférer puis de partager des connaissances dans notre colloque.
Et le centre ici, le Centre de recherche et d'innovation en catalyse, il se situe où dans le grand monde de la catalyse?
En fait, c'est un centre qui est vraiment très bien, qui est multidisciplinaire. Donc, on est capable de toucher à la fois au processus biologique, aux problèmes qui touchent plus au génie chimique, mais aussi à la fois au niveau de la chimie organique, donc par exemple les médicaments, et de la chimie inorganique, avec des applications, par exemple, pour les polymères et tout ça. Donc, il y a un mélange de recherche fondamentale. On a des outils vraiment excellents pour faire notre recherche.
Bien, bonne recherche. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Le plaisir était pour moi. Merci.
Merci beaucoup, Sophie-André, pour cette analyse de la catalyse dont vous avez montré les balises avec votre invité.
C'est la pousse.
Avec votre invité, André Beauchemin, donc professeur au département de chimie de l'Université d'Ottawa et affilié au Centre de recherche et d'innovation sur la catalyse. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de la première heure des Années-Lumière. Je prends deux secondes pour vous rappeler notre prochain Bar des sciences Radio-Canada Québec Sciences. C'est mercredi à 17h30 à Montréal, un Bar des sciences pendant lequel on va discuter d'une grande question. La grippe, faut-il en faire une maladie? Avec nos invités, avec le public, on va discuter de ce qu'on vient de vivre avec l'alerte à la grippe AH1N1 et de ce qu'on va vivre avec la prochaine épidémie ou pandémie de grippe. Donc, c'est un rendez-vous mercredi, le 20 mai, à 17h30. Ça se passe à Montréal, au bar Le Barouf, 41-71 Saint-Denis. Et puis, deux autres secondes pour vous inviter à regarder ce soir à la télé de Radio-Canada, Découverte, à 18h30. La Joconde, vue par l'équipe du Conseil national de recherche. Les fourmis Atta qui cultivent des champignons et les plus vieilles roches de la Terre, découverte par des géologues au Québec. Voilà, et on se quitte et on revient après les nouvelles pour la deuxième heure des Années-Lumière.
Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu toujours et l'équipe pour vous présenter le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors cette deuxième heure, c'est la deuxième heure d'une édition spéciale 77e congrès annuel de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, et cette émission a été enregistrée à l'Université d'Ottawa jeudi midi devant le public du pavillon des Marais. Alors on va la commencer cette deuxième heure avec Sophie-André Blondin et Tintin au pays de l'ACFAS. Je vous parle ensuite de génétique fondamentale, de fonctionnement du génome, d'épigénétique. Hugues de Roussan nous amène après dans la cybersociété et Chantal de Srivastava va terminer l'émission avec un sujet sur la souffrance au travail. Alors, Sophie-André Blondin, vous avez terminé la première heure avec un voyage dans le monde de la chimie et de la catalyse. C'était vraiment fascinant. Mais là, vous nous emmenez dans un univers totalement différent, dans le monde de Tintin, le reporter, le valeureux globe-trotter. Un colloque donc est consacré ici, aujourd'hui, à l'Université d'Ottawa, aux aventures du célèbre petit blondinet à la houppette. C'est vous qui l'avez écrit. J'aurais pas dit ça, moi. C'est dire qu'il reste des découvertes à extraire des aventures de Tintin pour les chercheurs encore aujourd'hui en 2009. Oui.
Ben, vous savez, les aventures de Tintin, c'est une œuvre majeure et toutes les œuvres majeures sont porteuses de découvertes. C'est une œuvre qui est majeure en quantité. On parle de 24 albums publiés entre 1930 et 1986. Oui, oui. C'est une œuvre majeure en qualité aussi parce que la lecture des albums de Tintin, les informations vraies ou farfelues qu'on trouve dans ces albums, ça a contribué à façonner l'imaginaire de 4 générations de jeunes lecteurs, ouais, ça n'est pas rien.
Ah oui.
Et on peut d'ailleurs faire sortir du champ des sciences pures et faire de la numérologie complètement improvisée et souligner le fait que le 77e congrès de l'ACFAS s'intéresse aux héros des jeunes de 7 à 77 ans.
Il y a quelque chose là, oui.
Ouh. Mais on va sortir du champ, évidemment, de la spéculation comme ça pour revenir à des propos plus sérieux parce que le père de Tintin, Georges Rémy, alias Hergé, il était, comme tout le monde, perméable à sa société, à son époque, aux préoccupations, donc à l'ambiance scientifique qui régnait autour de lui. Et c'est ce dont nous allons discuter avec les deux personnes que j'ai invitées. Maxime Prévost, qui est professeur au département de français ici à l'Université d'Ottawa, plus habitué à côtoyer Victor Hugo et Alexandre Dumas, mais qui, le temps du colloque, a organisé donc un colloque intitulé Hergé reporter, sociocritique de Tintin. Bonjour, Monsieur Prévost.
Bonjour, Sophie-André.
Vous m'avez confié que c'est dans Tintin que vous avez appris à lire et vous n'êtes pas le seul. Je pense qu'autour de vous, dans le colloque ce matin, il y en avait quelques-uns comme ça.
En effet, la plupart des conférenciers ont révélé qu'ils avaient eux aussi appris à lire avec les albums de Tintin de manière très littérale, apprendre à lire les premiers livres qu'ils ont lus, des livres qui ont donc influencé leur vision du monde, forcément.
Notre deuxième invité est Marc Angenoux, il est titulaire de la chaire James McGill de français à l'Université McGill, il est analyste du discours, historien des idées. Monsieur Angenoux, bonjour.
Bonjour Sophie-André.
Auteur aussi de quoi, 30 livres à peu près?
À peu près.
Une trentaine de livres aussi. Non, aucun sur Tintin jusqu'à maintenant?
Non.
Et il y a un titre de Monsieur Angenoux, vous oubliez Sophie-André quand même.
C'est vrai que d'un autre côté, M. Angenoux est vice-président de l'Académie québécoise de pataphysique et chandelier de plomb décoré de l'Ordre de la Grande Gidouille, mais ça, c'est pas dans Tintin.
Bravo, bravo!
je crois que je suis plus vice-président, Sophie-André. Ah. C'est comme le général Alcazar, il y a dû y avoir un coup d'État. Mais enfin, je suis encore décoré. Bien, Maxime disait qu'il a appris à lire dans Tintin, mais enfin, au moins pour tous les hommes de ma génération qui étaient enfants dans les années 50, on a surtout appris la vie dans Tintin. Enfin, pas vraiment, pas appris beaucoup l'amour et les femmes. Ça, c'était
non,
plutôt,
ça c'était plutôt absent.
C'était plutôt Flaubert. Je me suis fait une première idée vers 13-14 ans, mais Tintin, bon. Quand j'ai débarqué pour la première fois en Amérique du Sud, c'était à Barranquilla, en Colombie, j'ai reconnu l'As d'Opicos, c'est-à-dire que j'ai voyagé au San Theodoros bien avant de me trouver, et la première fois que je suis arrivé en Yougoslavie, du temps où elle existait, j'ai reconnu la Sildavie, de toute évidence. Donc, c'est Tintin qui nous a appris à vivre.
Et vous avez dit aujourd'hui, c'est Tintin qui vous a préconstruit d'une certaine façon, qui a préconstruit une génération, plusieurs générations de lecteurs.
Oui, c'est ça. Alors, c'est ça l'apport de Tintin à quelque chose comme la science. C'est que quand on devient adulte, on est encore en train de faire du Tintin parce que les événements de la vie nous rappellent des choses qu'on a compris d'abord en lisant Tintin.
N'empêche qu'il y a certaines sciences présentes dans les aventures de Tintin, des sciences qui commencent peut-être par des sciences qui sont plus géographiques. C'est peut-être la géographie, ou en tout cas les voyages, ça commence comme ça dans les années 30.
C'est-à-dire qu'à l'origine, le projet d'Hergé est très clairement inspiré de Jules Verne, qui est une lecture inavouée d'Hergé. Il n'a jamais avoué avoir lu Jules Verne.
Ah bon?
Non, mais c'est très évident qu'il ment. Tintin est effectivement quelqu'un qui découvre différentes parties géographiques à la manière des héros de Jules Verne 75 ans plus tôt.
Mais tranquillement aussi, on va aller vers des sciences plus dures. Alors, dans les années 40-50, on tombe dans l'astronomie, l'astrophysique, l'aéronautique, l'astronautique aussi. Alors là, la science fait son apparition avec un personnage dans Tintin.
Le personnage du professeur Tournesol, qui a eu des prédécesseurs dans l'univers de Tintin, que connaissent les tintinologues. Mais certainement, oui, Tournesol, inspiré d'un personnage réel, dont il est la reproduction graphique, qui était un scientifique qui s'appelait Auguste Piccard, dont Marc peut nous glisser un mot.
Je ne suis pas sûr que Marc connaît des tas de trucs sur Auguste Piccard. Je sais que c'était un physicien suisse qui l'envisageait. Il appartient encore à cette période héroïque où la science, ça peut être un seul savant. Ce n'est pas un laboratoire, un centre de recherche. Et donc, Auguste Piccard avait deux idées, explorer la stratosphère et explorer les fonds de l'océan.
Donc, ça ressemble à Tournesol.
Ça ressemble beaucoup à Tournesol. Donc, il a effectivement fabriqué un bathyscaphe, autant que je me rappelle.
Oui. C'est ça. Après Tournesol, après que Tournesol ait exploré les fonds marins.
Auguste Piccard, le scientifique le vrai, aurait peut-être lu Racam le Rouge et se serait inspiré, sait-on.
Très certainement. En fait, Auguste Piccard était lui-même un personnage de Jules Verne. Et à l'origine, il s'est fait connaître pour ses explorations en montgolfière de la stratosphère. Et ce qui a été repris dans les aventures de Tintin, dans les bijoux de la Castafiore, lorsque la Castafiore rencontre pour la première fois Tournesol, elle lui dit qu'elle est ravie de rencontrer ce célèbre sportif qui a fait de magnifiques ascensions en ballon.
Bon, sportif Tournesol, on verra, mais la question. Est-ce qu'on sait si la science ou ce qui est montré, ce qui est parfois vulgarisé dans les albums qu'Hergé a signés, c'est exact, c'est de la vulgarisation ou c'est un peu de fabulation?
Alors, je vais mettre... Moi, je m'occupe plutôt des albums des années 30. Dans les années 30, ce n'est pas la science dure, c'est l'anthropologie, l'ethnographie, ou comme le professeur Alambic, qui est le premier qui porte le titre de professeur dans le sceptre de Tokar, la sigillographie, la science des sceaux, c'est un médiéviste. D'autre part, au début, c'est des sciences humaines. Et c'est plus tard, effectivement, dans les albums, qu'il y a un tournant vers l'astrophysique, etc. Alors là, je repasse à Maxime.
Pour l'astrophysique, le diptyque évidence et on a marché sur la Lune et Objectif Lune qui date des années 50. Et là, Hergé s'était véritablement entouré d'une armée de collaborateurs qui faisaient des lectures, des recherches pour arriver à une vision la plus précise possible, la plus crédible possible de ce que pourrait être un voyage lunaire. Et ça, c'est quand même une vision relativement précise de la science qu'on retrouve relativement peu souvent dans les albums de Tintin.
Il a fait mouche pour ces deux albums-là, pour le reste, un peu moins.
Ça dépend de ce qu'on entend faire mouche, mais disons qu'il était, Hergé était extrêmement intéressé par toutes les sciences et tous les savoirs qui étaient un peu étranges, un peu déviants, les pseudo-sciences, le paranormal, et ça... C'est présent de manière constante dans les albums de Tintin.
Est-ce que c'est présent de manière encore plus poussée, plus les aventures avancent et plus les albums sont publiés? Est-ce qu'il est passé des sciences humaines aux sciences plus pures et dures et ensuite aux pseudo-sciences? Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Je vais essayer une réponse. D'abord, évidemment, c'est le rapport entre science et anticipation. Parce qu'effectivement, tout le monde sait que Tintin a marché sur la Lune bien avant que des Américains. N'est marché sur la Lune. Et alors, pour les amateurs de Tintin dans le public, je voudrais rappeler qu'il y a vraiment une anticipation dont ils se souviennent. C'est l'île Noire. Et dans l'île Noire, il y a une télé. Or, ça nous paraît tout à fait normal que Tintin voit la télé, sauf que l'album est de 1938. Et l'album étant de 38, il est très antérieur à l'apparition de systèmes de télé. Pour la petite histoire, c'est la Wehrmacht qui va installer en 1940 un système de télé en circuit fermé pour les soldats nazis en occupation à Paris. Donc il a plusieurs années d'avance sur le plan technologique de mettre un appareil de télé là dans le château de l'île Noire occupé par des faux monnayeurs.
Et je rappellerai que dans les bijoux de la Castafiore, en 1963, le professeur Tournesol tente d'inventer la télé couleur.
Oui, mais il ne réussit pas.
Non.
Il rate souvent ses inventions, mais il y en a plusieurs à son actif, quelques-unes assez farfelues aussi.
Tournesol s'intéresse à des sciences dures, légitimes, comme l'astrophysique, bien entendu, mais il s'intéresse aussi à des trucs tout à fait marginaux, tout à fait étranges, comme la science qu'il pratique avec son pendule, à savoir la radiesthésie, qui est une science qui est tout à fait déconsidérée, enfin un savoir tout à fait étrange et marginal, mais qui survit aujourd'hui encore dans la conscience des lecteurs grâce au professeur Tournesol, et qui se sert toujours de son pendule pour effectivement arriver à des observations de phénomènes. Il trouve des phénomènes vrais, il trouve de la vérité grâce à son pendule. Il est toujours un peu plus près de la vérité que les autres personnages grâce à cette science étrange que serait la radiesthésie.
Donc avec un instrument qui est très loin de la réalité, de la vérité, c'est là qu'il s'approche de la vérité. Entre autres, et là, Maxime Prévost, vous avez vraiment étudié vol 714 pour Sydney. Et là, on tombe dans des sciences occultes et extraterrestres. Là, on est loin des sciences pures et dures.
Oui, c'est-à-dire qu'à la fin de sa carrière en 1968, donc pour l'avant-dernier album complété de la série de Tintin, Hergé va se faire plaisir et s'intéresser aux objets volants non identifiés, aux ovnis, qui était un sujet qui était absolument captivant pour lui. Hergé a toujours été attiré par tout ce qui était inexpliqué, étrange, à côté de la norme scientifique. Et là, c'est comme s'il s'était servi de l'influence et de l'impact qu'il pouvait avoir auprès des jeunes lecteurs pour essayer de les influencer à croire que les phénomènes relatifs aux soucoupes volantes étaient justement des phénomènes dont on pouvait croire l'existence, des phénomènes positifs, des phénomènes avérés.
Est-ce que ça fonctionnait, Marc Angenoux? Y avez-vous cru?
Écoutez, là, vraiment, je suis très perplexe. Mon sentiment, le vol je ne sais plus combien pour Sydney, est le plus mauvais des
C'est le plus mal aimé des albums.
De Russell, le plus mal aimé. Il a pas eu vraiment grand succès, mais surtout, je l'aime pas beaucoup, justement par ce recours aux pseudo-sciences, aux parasciences. Mais je pense que Maxime n'est pas de mon avis.
Non, et en fait, ma théorie là-dessus, c'est que je crois qu'il faut avoir découvert cet album de même que le suivant, Tintin du Picaros, il faut les avoir découverts dans l'enfance pour comprendre leur charme. Tandis que souvent, les détracteurs de ces albums les ont découverts à l'âge adulte. Il y a un phénomène de génération qui jouerait là.
Alors là, c'est ça, vous étiez déjà sceptique, Marc Angenoux, et lui, Maxime, il buvait les paroles. Et vous avez dit
vous pouvez me dire, j'étais trop vieux déjà. L'album est de 1968, sauf erreur. Hein. Bon, oui, ça ne nous rajeunit pas.
Bon, je n'ai pas mentionné ça du tout. Mais vous avez mentionné qu'Hergé était conscient de son influence. Et ça, donc, de plus en plus la série avançait, plus il était conscient du message qu'il voulait laisser aux jeunes.
Je crois que oui. Et dans un album comme Vol 714, où Hergé finalement prend parti en faveur des civilisations extraterrestres qui seraient venues sur Terre auparavant, qui auraient laissé des monuments, par exemple les statues de l'île de Pâques, c'est les discours qui couraient à l'époque, là, les discours d'Erich von Däniken, de Robert Charroux. Il essaie de, je crois, relativiser l'importance des événements historiques récents.
Et vite, en nous laissant, juste nous donner, parce qu'on parle de science, dans les sacres, dans les patois du capitaine Haddock, il y a plein de choses que vous avez sorties pour nous, Maxime Prévost, et qui relèvent de la science, des mots qui ont été inspirés au capitaine Haddock par
oui,
la science.
C'est-à-dire que j'ai regardé ça rapidement hier soir et j'ai constaté que les insultes du capitaine Haddock puisaient dans toutes les sciences, l'anthropologie, l'ethnologie, l'astrologie, la zoologie, la
Alors,
physique, l'entomologie. Alors, je vous insulte pour terminer. Alors, bande d'anthropopithèques, de zapothèques, de boucs d'extrait d'hypocarbures, d'aérolithes, de canaques, de cercopithèques, de diplodocus, de brontosaures, de doryphores, d'ectoplasmes, de gyroscopes, d'invertébrés, de mégacycles, d'ornithorynques, d'orictérops, de phlétobomes, de phylloxéra, de protozoaires, de sapajous et de vivisectionnistes.
Merci beaucoup à tous les deux.
J'espère que vous ne prendrez pas ça personnel.
Absolument.
Alors, je rappelle le nom de vos invités. Donc, Maxime Prévost, professeur au département de français de l'Université d'Ottawa, et Marc Angenoux, titulaire de la chaire James McGill de français à l'Université McGill. Et j'ajouterai, de par ma chandelle verte, comme dit le Père Ubu, chandelier de plomb de l'ordre de la grande gidouille. Merci.
Au revoir. Merci.
Merci.
Alors, je vous lance une invitation spéciale pour le prochain colloque de l'ACFAS qui s'appelle « La recherche bâillonnée ». C'est un colloque sur la responsabilité et la liberté d'expression des chercheurs. Ça va se passer le jeudi 4 juin 2009 de 13h à 17h30 au Centre d'archives de Montréal. Tous les détails et les modalités d'inscription sont sur le site de l'ACFAS à www.acfas.ca. Génétique maintenant, génétique fondamentale, après ces choses très sérieuses que était le Tintin. On aurait pu croire que c'était simple comme tout, mais c'est en fait très compliqué. On aurait pu croire que les gènes ne sont que des machines à fabriquer en série des protéines de façon un peu bébête, mais ce n'est pas tout à fait ça. En fait, séquencer un génome, et on l'a fait pour des dizaines et des dizaines d'espèces, des animaux, des végétaux, des bactéries, des virus, des champignons, etc., etc. Séquencer un génome, ce n'est pas le connaître, ce n'est pas le comprendre complètement, ce n'est pas comprendre son fonctionnement, ni celui des gènes, ni leur expression, ni leur réplication. Et c'est à ces réflexions qu'on s'est adonné dans un colloque de 2 jours intitulé « Bioinformatique, génomique, épigénétique ». Un colloque auquel participait mon invité, Guy Drouin, qui est professeur au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Bonjour, Monsieur Drouin.
Bonjour.
Alors, j'ai dit, séquencer un génome, c'est pas le comprendre. C'est vrai que cette idée d'un génome bien stable, bien pépère, bien tranquille, qui fait tranquillement des protéines, c'est pas tout à fait ça que les biologistes ont comme image aujourd'hui.
Exactement. Séquencer le génome humain, ça nous a permis de voir que le génome n'était pas stable, que ça variait beaucoup, d'une personne à l'autre.
Oui, oui.
Fait qu'il y a certaines personnes qui ont une copie d'un gène, d'autres qui en ont jusqu'à 13, d'autres qui n'en ont aucune.
D'un même gène?
D'un même gène.
Et sans trop de problèmes?
Sans trop de problèmes, parce que ces gens-là vivent aussi bien que vous et moi, mais d'un autre côté, ça les donne différentes susceptibilités à différents médicaments. Fait qu'une personne qui n'a aucune copie du gène va garder le médicament dans son corps longtemps, va falloir y en donner moins, tandis qu'une personne avec un grand nombre de copies d'un gène va le détruire rapidement, va falloir y en donner plus et plus souvent.
Alors ça, c'est un exemple de la bizarrerie du génome humain et en général de tous les génomes.
De tous les génomes.
C'est ça. Mais est-ce que c'est une règle générale d'avoir des bizarreries comme ça? Est-ce qu'on trouve ça dans tous les génomes et puis partout dans le génome?
Oui, c'est très flexible. Bon, on pensait que les génomes, c'était plus comme un CD de Céline Dion avec des chansons tout en bon ordre, avec les mots, etc. Mais non, les mots disparaissent, les chansons changent de place, les phrases changent de place.
Vous voulez dire que les génomes, c'est plus compliqué que Céline Dion?
C'est plus... légèrement. plus
ça.
Fluide aussi.
Mais qu'est-ce que ça pose comme question sur, le fonctionnement du génome et le fonctionnement des gènes, sur la réplication des génomes? Ça pose quoi comme type de question? C'est quoi vos casse-têtes que vous avez, vous, les biologistes, devant ça?
Ben, pour le moment, on change la façon de procéder. Avant ça, on travaillait avec un gène à la fois pour comprendre le fonctionnement du gène, etc. Maintenant, on les a tous, environ 30 000 gènes. Et c'est pour ça que notre colloque comporte une partie bioinformatique. C'est que ça nous prend des ordinateurs de plus en plus puissants pour suivre ces 30 000 gènes-là.
Exactement. Alors, on va prendre un exemple que j'ai trouvé tout à fait curieux, tout à fait séduisant. C'est un peu votre plaisir à vous, hein, les copépodes. Les copépodes, donc, c'est quoi? C'est quoi comme bibites? On peut dire que c'est des bibites?
Oui, c'est des mini homards. C'est des homards qui vivent dans l'eau, soit de l'eau salée ou l'eau douce, font environ 1 millimètre de long.
C'est tout petit?
Oui, et qui se font manger par les poissons et par les homards.
Et qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans les copépodes, vous, Guy Drouin, sérieux chercheur en biologie à l'Université d'Ottawa?
C'est un intérêt qui remonte au début des années 80, puis il y avait ce que les gens ont observé au microscope, c'est que les copépodes, lorsqu'ils commencent à se développer, ils jettent leur ADN.
Ils jettent leur ADN?
Oui. Tandis que nous, on donne la moitié de nos chromosomes, le père donne la moitié de ses chromosomes, la mère la moitié de ses chromosomes, puis les enfants les gardent. Mais chez eux, ils jettent 90% de leur ADN. Et puis, vu qu'un copépode fait 1 mm et puis qu'un œuf de copépode, c'est très petit, c'est dur de suivre qu'est-ce qui se passe dedans.
Oui.
Mais les nouvelles techniques des dernières années m'ont permis justement d'aller isoler l'ADN d'œuf de copépode puis regarder l'ADN qui était largué.
Et donc, ça, cet ADN-là, c'est de l'ADN inutile? C'est de l'ADN de trop?
C'est de l'ADN de trop. C'est de l'ADN inutile qui est très, qu'on appelle répétitif. C'est des séquences qui ne codent pas pour des protéines qui n'ont pas de fonction. Mmh. Fait que là, la fonction, pourquoi est-ce que ça existe, on ne le sait pas. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les mécanismes qui...
Mais ça nous montre en tout cas qu'il n'y a pas une seule façon finalement pour les génomes de fonctionner, ou il n'y a pas une seule façon de transmettre ces gènes dans la nature. C'est ça que ça montre.
Exactement. La grande diversité génétique existe.
Oui. Et on voit, et on en a parlé pendant votre colloque, on voit l'émergence d'une discipline, je ne sais pas si une discipline ou une approche, une façon de regarder les choses qu'on appelle... l'épigénétique. Hein. Épigénétique, c'est ce qui est au-dessus des gènes. Qu'est-ce que...
Ce qui contrôle l'expression des gènes. C'est un peu ce que les gens sont en train de trouver, c'est que c'est un peu comme une vis qu'on serre ou qu'on desserre pour ralentir ou accélérer un moteur. Donc, l'expression des gènes.
C'est ça, oui.
Et puis, ce que M. Sapienza présentait hier de l'Université de Temple, c'est qu'eux autres, ils ont découvert que lorsqu'on fait des enfants avec les technologies in vitro, ça change un peu l'expression des gènes.
L'expression des gènes.
C'est ça. Donc, pour revenir à l'analogie de Céline Dion et son CD, si elle fait de la fécondation in vitro, ça augmente la probabilité qu'elle va avoir un enfant avec certains troubles neurologiques ou un poids bas ou des trucs comme
Mais
ça.
Mais est-ce que ça, c'est bien documenté, effectivement, cette différence entre les enfants éprouvettes et les enfants, disons, avec la méthode de papa? Là?
Maintenant, c'est bien documenté. Ça n'a pas un effet extrême. C'est que la probabilité d'avoir un enfant avec un défaut, c'est peut-être 1 sur 20 000. Puis si on le fait in vitro, ça va être 3 sur 20 000. Donc,
c'est pas énorme.
C'est pas dramatique.
C'est pas dramatique, mais quand même, ça existe. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle l'épigénétique.
C'est ça. Fait que la façon dont les œufs se développent chez une femme ou dans un plat de pétri affecte l'expression des gènes et qui va avoir un effet sur le développement de l'enfant.
Et ça se passe dans le plat de pétri seulement pendant 2-3 jours au début.
Exactement,
hein, c'est ça.
Exactement.
Et est-ce qu'on comprend ce qu'on observe? Bon, on observe qu'il y a une différence d'expression des gènes chez les bébés éprouvettes par rapport aux bébés non éprouvettes. Mais est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce qu'on comprend les mécanismes biologiques?
Non, on ne comprend toujours pas. C'est ce que le docteur Sapienza montré hier, c'est qu'il y a une différence d'expression, mais les effets de cette différence-là ne sont pas encore connus.
C'est ça.
Il faut commencer par le début.
Donc, c'est l'épigénétique, au fond, tout ce qui nous amène à regarder, au fond, le génome d'une façon un peu différente. On a parlé aussi dans votre colloque de phylogénétique ou de phylogénie. Ça, c'est l'étude des ancêtres.
Exactement. Suivre l'évolution du matériel humain, comparer le matériel humain avec cela de d'autres primates, avec les rongeurs, avec les poulets, les vaches.
Etc.,
et puis, à partir de ça, on peut déduire l'ordre d'apparition de ces différentes espèces-là, puis les ancêtres communs qu'on a eus avec les espèces.
Alors, j'ai suivi une bonne partie de ce colloque-là, et je dois dire que c'est un peu difficile parce que c'est des approches qui sont très hautes, des méthodes à fort contenu mathématique. Et d'ailleurs, le colloque était organisé par un de vos collègues mathématiciens, David Sankoff. Qu'est-ce qui amène un mathématicien comme David Sankoff à faire de la biologie? C'est un peu bizarre, non?
Non, c'est non. Très bon signe pour les biologistes.
Oui.
Ça veut dire que la biologie devient une science pure de plus en plus et non pas une science de naturaliste.
D'observation.
Ouais. Mm-hmm. Donc maintenant, les gens, lorsqu'on a la séquence du génome, on peut faire des mathématiques avancées là-dessus. Et le docteur Sankoff a développé des techniques mathématiques au début des années 70 que les gens ont commencé à utiliser au début des années 90 parce que là, il y avait les données pour se servir de
Donc
ces mathématiques.
Donc, lui a développé des mathématiques sans savoir que ça servirait...
Qui ne pouvaient pas être appliquées lorsqu'il les a développées. Ça a pris 20 ans avant qu'on ait les données. C'est un peu comme la prédiction d'Einstein qui avait prédit que la lumière serait déviée en passant près d'une planète.
Oui, oui.
Il l'a fait, puis plusieurs années plus tard, les gens l'ont vérifié.
Oui. Et ça ne vous choque pas, donc, vous, comme biologiste, d'avoir un mathématicien qui joue dans vos plates-bandes?
Non. C'est super utile parce que, comme je vous disais, avec tous les génomes, ça nous prend de l'informatique et des mathématiciens pour analyser ça.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Guy Drouin, d'être venu nous expliquer ces choses assez compliquées quand même qu'on appelle la génétique, l'épigénétique, la phylogénie, les mathématiques en biologie. Merci beaucoup, Guy Drouin. Je rappelle que vous êtes professeur au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup.
Merci. Bienvenue.
Merci.
Ici Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patients, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
Alors, il y a 15 ans naissait le web et le monde entrait dans une nouvelle ère, un village global comme personne n'avait jamais imaginé qu'il ne s'en produirait. Dorénavant, la planète devenait accessible au bout des doigts, et on le sait tous quotidiennement dans nos vies. Cette révolution allait donc changer pour toujours notre manière de faire les choses, hein, Hugues de Roussin, et même d'entrer en relation avec les autres.
Et même davantage, Yannick, le web va également provoquer des bouleversements économiques et susciter des innovations technologiques qui vont accélérer le mouvement du web, en plus d'ouvrir des horizons totalement imprévisibles. En fait, ça ne fait que commencer, selon certains. Pour d'autres, ce n'est que le début d'un temps nouveau, comme dirait la chanson. Et pour en discuter, j'ai avec moi Daniel Paré, qui est professeur associé au département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Paré.
Bonjour.
Également du département de communication de l'Université d'Ottawa, M. Pierre Lévy, professeur.
Bonjour.
Ma première question va à vous, M. Paré. Quand le web a commencé, là, au milieu des années 90, est-ce qu'on pouvait imaginer ce que le web allait devenir?
Absolument pas. Absolument pas. C'était tout beau, tout nouveau. On avait toutes sortes d'idées, mais la façon dont ça s'est déroulé dans les années précédentes, c'était pas prévu. On avait beaucoup de spéculations à le début, des affaires qu'on disait qui étaient pour arriver, des grands changements politiques, des grands changements économiques, des grands changements sociaux. Alors, il y en a des éléments de ces changements-là qui ont pris place, mais il y en a plusieurs d'autres qui ne sont jamais manifestés comme tels.
Oui, il y a eu des utilisations du web qui étaient un peu imprévues. Par exemple, tout l'aspect commercial, toute la question des droits d'auteur. Et maintenant, on est un peu pris avec ça. On ne sait pas trop comment s'en sortir.
Exactement, exactement. Et on avait aussi, surtout dans le domaine politique, où ce qu'on disait qu'effectivement, que le monde était pour devenir beaucoup plus démocratique que les gouvernements comme la Chine ou la Saudi-Arabie, tout ça, que ça aurait des gouvernements qui ne pourraient pas maintenir le pouvoir lors de les systèmes d'informatique. Et on voit que ça n'a pas changé beaucoup, effectivement.
Et en fait, ils ont appris à utiliser le web à leur propre fin.
C'est ça.
Monsieur Lévy, il y a 500 ans, l'imprimerie a complètement changé la face du monde. À cette époque-là, à l'aube de la Renaissance, c'était le premier mass-média, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est le cyberespace, c'est le web. Est-ce que ça transformera le monde autant que l'imprimerie l'a fait il y a 500 ans?
Eh bien, c'est mon hypothèse.
Oui, je sais.
Puisque, disons que la révolution industrielle, également la révolution scientifique des sciences de la nature, beaucoup d'éléments de transformation politique ont été liés à l'apparition de l'imprimerie, au développement des journaux, de nouvelles formes de communication. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation complètement nouvelle. Comme disait Monsieur Villedieu, bon, ça fait moins d'une génération que le web est arrivé. Et ce nouvel environnement de communication a certaines caractéristiques qui sont absolument inédites, comme le fait que dès qu'un document se trouve quelque part dans le réseau, il est accessible de partout. Donc l'information est ubiquitaire. C'est la première fois qu'on est dans cette situation. Potentiellement, tous les documents sont interconnectés les uns avec les autres par l'intermédiaire des hypertextes ou des recherches qu'on peut faire avec les moteurs de recherche, etc. Et puis surtout, tous ces documents sont animés de l'intérieur par des automates manipulateurs de symboles, par des logiciels. Alors, si vous ajoutez cette capacité d'action et d'interaction autonome, cette ubiquité et puis cette interconnexion à un niveau mondial, eh ben, on est vraiment dans un environnement de communication pour lequel on n'a pas vraiment d'héritage culturel, disons, pour exploiter toutes ces nouvelles possibilités. Et à mon avis, il faudra probablement plusieurs générations.
Vous allez aussi loin que de parler d'intelligence collective. Alors, au-delà de simplement d'une grande mémoire de tout ce que l'on connaît, vous parlez d'intelligence collective.
Oui, alors bon, je ne suis pas ni le premier ni le seul à parler d'intelligence collective. Les biologistes en parlent, les éthologues, au niveau des sociétés de fourmis, d'abeilles, etc., même pour les sociétés de mammifères. Mais évidemment, En ce qui concerne l'espèce humaine, il y a le langage, il y a la culture, il y a les technologies de communication. Il y a les... Bon. Et donc là, l'intelligence collective a un degré d'intensité beaucoup plus élevé que pour les sociétés animales. Et je crois que chaque fois qu'on invente un nouveau médium, de nouveaux systèmes de signes, des technologies intellectuelles qui augmentent ce qui est le propre de l'homme, c'est-à-dire la faculté du langage, eh bien, on augmente les fonctions cognitives qui sont exercées par les groupes humains, en général. Moi, j'ai publié en 1994 un livre qui s'appelait « L'intelligence collective ». Bon, c'était un peu bizarre à l'époque, parce que bon, on pensait surtout aux abeilles, aux fourmis, et ça. Mais aujourd'hui, presque tout le monde parle d'intelligence collective. C'est très à la mode dans le management. Tout le monde parle d'intelligence collective concernant, par exemple, la création de Wikipédia. C'est devenu un thème tout à fait standard.
Un des problèmes quand on navigue sur le web, c'est qu'on n'a pas de lampe de poche pour savoir où on se dirige. Il y a tellement de sources d'informations, tellement de niveaux d'informations, de structures d'informations, d'organisations d'informations. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver quelque part un langage commun à tout ça pour que tout le monde se parle ensemble?
Merci d'aborder cette question.
Je vous tends la perche.
Oui, parce que justement, mes recherches portent là-dessus, donc sur un langage universel pour décrire les concepts, mais ce ne serait pas du tout comme les langues naturelles, disons, ce serait un langage artificiel qui serait spécialement conçu pour être automatiquement manipulable par les ordinateurs, puisque les langues naturelles ne sont pas du tout faites pour ça, et pour faciliter les recherches, l'organisation de la mémoire, etc. Et bien sûr, il est très important que ce langage soit conçu de telle sorte qu'on puisse structurer l'information selon un très grand nombre de points de vue possibles, parce que tout le problème, c'est de faire l'équilibre entre l'unité nécessaire, disons l'interopérabilité, l'interconnexion entre toutes les informations. Donc tout ça fait partie du même contenant de mémoire. Et puis, on veut que des gens qui parlent des langues différentes, qui viennent de disciplines différentes, qui ont des points de vue différents, puissent se comprendre et communiquer. Mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus uniformiser, et on veut que tous les points de vue distincts puissent s'exprimer. Donc, vous voyez la complexité du problème.
C'est la quadrature du cercle.
C'est ça.
Monsieur Paré, je parlais tout à l'heure d'innovations technologiques qui ont été amenées par l'apparition du web. On a juste à penser au iPod, qui a complètement révolutionné la musique. Est-ce qu'on avait prévu ce genre de gadget? Parce que le iPod a été inventé pour simplement permettre de vendre d'autres ordinateurs et finalement, ça a pris toute la place.
Oui. Est-ce que c'était prévu? Oui et non. Comme dit, c'est le iPod ou même le téléphone cellulaire, ça fait penser un peu les modes de communication qu'on avait dans les émissions de Star Trek dans les années 60. C'était prévu dans ce sens-là, comme tel. Avec le iPod, on a l'avantage, effectivement, que c'est une innovation technologique qu'on a développée, on savait qu'il était basé dans une façon sur, mettons, les Walkman, le succès des Walkman et tout ça. So, en développant cette technologie, il y avait un sens que oui, il y a une demande au niveau du marché pour ça, les chances que ça va réussir sont assez larges. Et en plus, que c'est un produit d'Apple, qu'on a beaucoup de confiance dedans comme tel. So oui, les affaires étaient en ordre, mais ce n'est pas à dire que d'ici l'année prochaine, qu'il n'y aura pas une autre technologie qui va être encore plus reconnu que l'iPod, ou d'ici d'une autre couple d'années. Ça, c'est cette question-là de changement constant.
Oui, il y a eu aussi avec le web l'apparition d'un nouveau champ de communication entre les gens. Il y a YouTube,
Il y en a beaucoup.
Il y a YouTube, Facebook, le dernier né qui est Twitter.
Twitter.
On dirait que ça n'a pas de limite. Est-ce que ça a changé la manière dont les gens vont communiquer ou voient la communication qu'ils peuvent avoir entre eux?
Ça change la façon que la communication se manifeste définitivement. Et on voit surtout au point de vue d'un changement au niveau des générations. La façon dont les jeunes peuvent utiliser ces technologies-là pour communiquer comparé à nous qui sont un petit peu plus âgés. Mais encore, ça revient, il y a des changements qui prennent place, mais je reviens au point que ce n'est pas entièrement tout nouveau, tout beau. C'est qu'est-ce qu'on voit? On voit certaines affaires qui sont stables dans une façon. Qui s'ouvre, on voit avec ces modes de communication-là que quand même, on les utilise dans une façon qui est complémentaire avec les interactions sociales ou dans le vrai monde, si on peut dire comme ça que c'est.
Donc les gens continueront à se voir malgré tout le soir pour prendre un café.
C'est ça. Mais on attend assez souvent les cas de peur, si tu veux, la personne qui est assez arrière l'ordinateur et qui ne veut jamais sortir de la chambre.
Oui, il y a une crainte que certaines se cachent derrière justement le web pour ne pas rentrer en contact direct.
C'est ça. Et à un certain point, c'est sûr que ça arrive. Mais la majorité des données qu'on a démontrent qu'effectivement, ce n'est pas le cas, que ce sont vraiment des cas exceptionnels.
Monsieur Lévy, tout à l'heure, vous avez parlé de Wikipédia. Je vais rajouter le mot Google. Ça a même donné un mot, là. On Google maintenant.
Oui.
Est-ce que Wikipédia et Google ne sont pas de véritables ogres qui ramassent tout? On ne peut plus rien faire sur le web sans passer par l'un ou l'autre.
Ah! Alors, ben, c'est quand même deux entreprises qui sont de nature très différente. Parce que Google, c'est quand même une entreprise commerciale qui a un quasi-monopole sur la recherche sur le web. Bon, disons, entre 65-70% des recherches sur le web passent par Google. Mais il ne faut pas oublier qu'il en reste quand même, disons, 35% qui utilisent d'autres moteurs de recherche ou qui se basent justement sur des réseaux sociaux, sur des groupes de gens qui s'indiquent des informations intéressantes, etc. Mais malgré tout, c'est le géant commercial, disons, puis on peut le considérer comme une entreprise de médias, hein, parce qu'il y a YouTube, bon, il possède beaucoup de choses, il possède des entreprises de blogs et tout ça. Bon. Wikipédia, c'est complètement différent. Bon, c'est une entreprise à but non commercial, c'est précisément la plus grosse source de données encyclopédiques du monde, il faut le dire.
C'est la première,
c'est la plus consultée, c'est là qu'il y a le plus d'informations. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions, notamment à l'université avec mes collègues, sur il ne faut pas utiliser Wikipédia ou il ne faut pas le citer, etc. Mais
nous avons les mêmes discussions dans le journalisme. À quel point on peut se fier sur Wikipédia.
Voilà. Alors moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est un très bon point de départ pour démarrer une recherche. Ça vous donne une idée. Et puis surtout, exactement comme pour le journaliste, diversifier les sources. Hein. Et puis avec le web, vous pouvez le faire. Bon. Mais non, Wikipédia, c'est vraiment un exemple d'intelligence collective. Les gens font ça dans une optique de contribuer au bien commun, quand même.
Ou non.
Ou non.
Ou non. Ah bah oui,
ce sera peut-être
non.
La question pour le prochain congrès de l'ACFAS. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Hugues. Je rappelle le nom de vos invités. Daniel Paré, qui est professeur associé au département de communication de l'Université d'Ottawa, et Pierre Lévy, également professeur au département de communication de la même université, l'Université d'Ottawa. Merci, messieurs.
Merci beaucoup.
Alors, vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, une émission spéciale enregistrée jeudi devant public dans le cadre du 77e congrès de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir, un congrès qui se tenait cette année à l'Université d'Ottawa. L'adage le dit bien, le travail, c'est la santé. On continue souvent, ne rien faire, c'est la conserver, bien sûr. Mais... et pourtant, non, il y a bel et bien été question de souffrance au travail cette semaine à l'ACFAS. Et même, c'est incroyable, Chantal Srivastava, de mort par sur-travail. Étonnant.
Ça c'est un phénomène qui a un nom, hein, Yannick. On appelle ça le karoshi. C'est une expression qui nous vient... Vous l'aurez peut-être deviné, du Japon. C'est un terme qui a été formellement introduit là-bas au début des années 80 par trois médecins pour décrire un ensemble de troubles cardiovasculaires associés à un temps de travail excessif causant la mort. Alors, un premier cas rapporté dans les années 60, un employé au service d'expédition d'un grand journal qui meurent d'une crise cardiaque sur les lieux de travail. Depuis 87, on reconnaît vraiment le phénomène, quoi qu'il faut vraiment prouver qu'on décède, oui, qu'on meurt, oui, de cette cause-là. Le gouvernement japonais publie des statistiques sur les compensations versées, mais on parle d'à peine quelques dizaines de cas par an. Sauf qu'il n'en demeure pas moins qu'au Japon, comme partout ailleurs dans le monde, et particulièrement par les temps qui courent, les entreprises sont souvent réticentes à reconnaître leurs responsabilités en matière de souffrance au travail. Leurs employés également sont vraiment confrontés à des drames qui parfois frappent tout le monde de plein fouet. Alors, pour parler de tout cela et aussi plus globalement de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, j'accueille deux invités qui ont participé à un colloque sur cette question. Alors, tout d'abord, Pierre Bardelli, organisateur du colloque. Bonjour, M. Bardelli.
Bonjour.
Alors, vous venez de Metz en France et vous êtes professeur en sciences de gestion à l'Université Paul Verlaine. Et ce qui vous intéresse vraiment, c'est la responsabilité sociale et la souffrance au travail.
Exactement, oui. La responsabilité sociale en tant qu'elle définit les pratiques d'entreprise en la matière. Et ce qui m'a interpellé, c'est que précisément dans ce discours, la souffrance au travail n'apparaît pas. Donc la question de recherche qui s'est posée à nous, c'est pourquoi ?
On parle de quoi ? On parle d'environnement, de responsabilité par rapport au développement communautaire et ainsi de suite, mais pas des employés ou très peu ?
Si, mais on en parle toujours dans une connotation positive.
Ah, le bien-être plutôt que la souffrance.
Oui, et puis les valeurs, la formation, qui sont des choses effectives, hein, que les entreprises mettent en place, mais le discours, si vous voulez, a pour vocation de mobiliser les salariés, avec un inconvénient, c'est que dès lors qu'ils ne parlent pas des effets négatifs, l'entreprise a beaucoup plus de difficultés à les prendre en charge.
Et justement, celle qui est à côté de vous a étudié le discours des banques, entre autres. On reviendra à l'exemple plus précis, mais je vous présente sans plus tarder Mme André Dessert. Vous êtes professeure donc à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, rattachée au département stratégie, responsabilité sociale et environnementale. Et vous êtes intéressée au discours des banques canadiennes, c'est bien cela?
Voilà. Nous, avec ma collègue Lovasoir Amboarisata, qui a participé à la recherche, on étudie depuis maintenant 6 ans comment les banques rendent compte de leur performance autre que financière, donc leur performance sociale, environnementale, fiduciaire et particulièrement, parmi les indicateurs, leur responsabilité par rapport aux employés. Donc, on parle aussi peut-être plus de bien-être, comme dit Pierre, mais on interprétera comment ça se traduit au niveau du malaise aussi des employés dans les banques.
On y reviendra plus en détail, mais si vous voulez bien, M. Bardelli, pour commencer, j'évoquais les cas extrêmes au Japon où est née cette notion de karoshi, de mort par surtravail. Un cas extrême, dis-je, mais par contre, ce qui est très, très répandu et peut-être aggravé par la crise financière, c'est la souffrance au travail qui se manifeste de plusieurs manières, et qui n'est pas un phénomène là, unique à un type d'entreprise, un type d'employé, mais qu'on retrouve vraiment répandu partout et qui ne relève pas seulement des individus. Ça, il faut le préciser.
Alors, la souffrance au travail est un concept complexe. Bon, d'abord, c'est un concept qui concerne les individus. Donc, la souffrance est physique. Alors, on connaît bien les troubles musculo-squelettiques qui sont propres au procès de production fordien.
Le travail à la chaîne, et ainsi
exactement.
De suite, ouais.
Et puis, les troubles mentaux, qui ne sont pas absents dans ce process, mais qui sont plus présents dans le process post-fordien et qui renvoient au mal-être, à la dépression, au stress, aux troubles psychologiques, syndrome d'épuisement professionnel, harcèlement, violence. Et la souffrance est une conséquence de ces pratiques-là.
Il y a des manifestations très, très graves chez vous en France, entre autres, toutes récentes dans des grandes entreprises.
Voilà, l'INSERM estime à 300 le nombre des suicides annuels dus à la souffrance au travail.
C'est un par jour presque.
Oui.
Alors, et dans les grandes entreprises et des gestes d'éclat.
Il y a eu, dans de grandes entreprises telles Renault, en quelques mois, 3 suicides très significatifs sur les lieux de travail, qui alors, dans un secteur... Dans un service où il n'y avait que des ingénieurs, faut-il le dire. Donc c'est une souffrance qui touche aujourd'hui non plus seulement les opérateurs, mais aussi les personnels d'encadrement et de conception.
Et c'est plus significatif que ce soit sur les lieux de travail qu'à la maison ou qu'après les heures de travail, pour vous?
Pour les médecins, oui.
Ouais.
Puisque lorsqu'on donne fin à ces jours sur les lieux de travail... c'est qu'on veut donner à ce geste un sens très fort.
Et ici, en Amérique du Nord, on a des problèmes similaires avec la prolifération des armes à feu qui circulent plus librement. On a des gens qui entrent sur les milieux de travail armés et qui se mettent à tirer avant de se tuer.
Alors, je ne sais pas si dans ces cas de figure, l'acte est fait suite ou pas à une souffrance au travail, mais en tout cas, dans le cas des suicides, mais qui est l'acte extrême. Hein. Il y a beaucoup d'autres manifestations de la souffrance au travail au plan individuel, mais surtout au plan économique et social, puisque elle est contre-productive. La souffrance émane principalement des nouvelles conditions de travail. Et si on comprend bien le triptyque magique temps, productivité et richesse, puisqu'il s'agit dans l'entreprise manufacturière, mais pas seulement, de travailler toujours plus vite pour produire plus à temps constant, on a tous les ingrédients de la souffrance au travail. D'autant que dans les formes modernes de management que j'ai qualifiées de management libéral, il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont mis en œuvre pour faire pression sur les salariés.
Alors, Madame de Serre, vous avez analysé avec votre collègue le milieu des banques au Canada, un milieu qui vit des soubresauts par ricochet avec ce qui se passe aux États-Unis. La situation n'est pas rose là-bas. Qu'est-ce que vous avez évalué? Qu'est-ce que vous avez découvert?
Alors, il vaut peut-être la peine de préciser que on n'évalue pas le milieu, mais on évalue le discours des banques, c'est-à-dire ce que les banques disent être leur responsabilité sociale à partir des rapports bilans sociaux ou rapports de responsabilité publique. Alors, c'est une démarche d'analyse textuelle. On code ligne par ligne les propos des banques, on les rassemble sous différents indicateurs et on peut les classer en fonction de ce qu'elles disent être important ou moins important en termes de nombre et de pourcentage.
Eu égard à leurs employés, au bien-être de leurs employés.
Et là, si on résume, en 2006, les grandes banques canadiennes consacrent 10 % de leur rapport de responsabilité sociale aux employés, à leur relation avec les employés. 10 % dont 3 % au programme de rémunération et au programme de promotion. Alors, il y a une partie très inductive, on observe, mais il y a une partie qu'on pourrait qualifier de plus prescriptive en analysant ce qu'elles ne disent pas. Ce qu'elles ne disent pas et qu'on croit qu'elles devraient dire pour nous démontrer leur performance fiduciaire, elles devraient nous dire comment les programmes de rémunération et de promotion influencent le comportement et les décisions des banquiers qu'on rencontre tous les jours face à face.
Et leur bien-être, les dilemmes moraux auxquels ils sont parfois confrontés.
Voilà, voilà. Et la liberté de conseiller le meilleur produit à leurs clients, de ne pas être biaisé par des quotas, des objectifs, conserver leur emploi et être vraiment à l'aise et non pas trop torturés pour être capables de bien remplir leurs fonctions professionnelles. C'est une des conclusions qu'on peut porter, mais il y aurait beaucoup d'autres interprétations aussi à y faire.
Alors, au cours de ce colloque où il a été question de la responsabilité sociale des entreprises et de la question de la souffrance, vous étiez des chercheurs réunis ensemble, vous avez tenté de voir comment, qu'est-ce que vous faites avec ce problème-là? Vous l'observez, vous le mesurez, vous essayez de le régler, vous faites quoi?
On essaie déjà de le comprendre. Parce qu'il y a un bon nombre de cas où le harcèlement, la violence, la souffrance font l'objet de négations. Il y a un véritable négationnisme en la matière. Donc nous avons souhaité d'abord établir le fait et tenter de l'expliquer. Alors, il y a diverses explications possibles. Pour ce qui me concerne, par exemple, c'est un phénomène qui est très lié, je l'ai dit tout à l'heure, aux nouvelles conditions de travail et à la flexibilisation du travail. Cette nouvelle façon de faire travailler les gens sur des objectifs qui sont jamais définitifs, des gens qui sont soumis à une évaluation permanente. Donc il n'y a plus de critères stables permettant de qualifier leur travail. Ce sont des gens qui n'ont plus de repères. Si vous ajoutez à ça que dans les collectifs de travail aujourd'hui, il n'y a plus de solidarité parce que les solidarités ont été cassées, vous avez des individus qui sont soumis au plus grand désarroi.
Comme chercheur, Mme de Serre, vous avez un objectif,
oui.
Un rêve?
Ou un rêve, du moins un dilemme, j'oserais dire, entre se satisfaire d'observer et passer à un stade plus proactif de recommandation. Alors, c'était les conclusions, les discussions finales de notre colloque hier. Quel est le rôle des chercheurs en sciences de la gestion ou dans d'autres domaines face à ce manque de mesures de performance ou de reddition de compte par rapport aux relations entre l'employeur et les employés et leur bien-être?
Est-ce que c'est différent? Vous êtes chacun de votre côté de l'Atlantique, mais vous connaissez vos préoccupations respectives. Est-ce que c'est différent au compte tenu du contexte actuel de mondialisation et de crise financière planétaire? C'est la même chose partout.
C'est la même chose parce que la concurrence impose que les conditions de travail, de production et de travail soient les mêmes. Puisque la concurrence, elle implique une uniformisation des prix. Donc, le prix qui se pratique sur les produits qui sont vendus à l'échelle internationale sont les mêmes pour tous. Donc, par ricochet, les conditions de travail qui sont imposées aux salariés qui doivent fabriquer doivent être les mêmes. Avec peut-être ceci à ajouter, c'est que les conditions étant extrêmement plus dures, il y a aussi d'autres raisons économiques dans un pays comme la Chine, ça devient un enjeu terrifiant dans les entreprises occidentales. Qu'elle soit américaine ou européenne, le problème est le même.
Le bon côté de la mondialisation, par contre, c'est aussi que les bonnes pratiques voyagent d'un pays à l'autre. Alors, on peut, justement, par la recherche, comme on le fait en analyse comparative, aller voir ce qui se passe et ne pas se contenter de la situation qu'on nous impose.
Et organiser des colloques, donc, où collaborent des gens de part et d'autre de l'Atlantique pour partager des expertises. Alors, merci beaucoup à tous les deux de cette table qui a été mise. Les problèmes sont loin d'être tous réglés, mais vous commencez, en tout cas, comme chercheur, à en prendre conscience. Merci.
Oui, merci pour... Et merci donc pour ces petits mots d'optimisme vers la fin. Hein. Donc je rappelle le nom de vos invités, Pierre Bardelli, professeur en sciences de gestion à l'Université Paul Verlaine à Metz, en France, bien sûr, et André Desserre, professeur à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, attaché au département stratégie, responsabilité sociale et environnementale. Merci. Et c'est ainsi que prend fin cette émission spéciale réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Sylvain Labrec et Pierre Dulon. Les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Chantal Srivastava, au site internet Lily Marin. Un grand merci à Stéphanie Quirion de l'ACFAS pour son aide pendant toute cette semaine du 77e congrès. Puis je vous rappelle notre prochain Bar des sciences Radio-Canada Québec Sciences. C'est mercredi à 17h30. C'est un bar des sciences pendant lequel on va discuter d'une grande question. La grippe, faut-il en faire une maladie? Avec nos invités, avec vous le public, bien sûr, on va discuter de cette fameuse crise de la grippe, celle qui est passée et celle qui va venir. C'est donc un rendez-vous mercredi prochain, le 20 mai à 17h30. Ça se passe à Montréal, au bar Le Barouf. C'est 4171 rue Saint-Denis. Tous les détails sont sur notre site internet www.radio-canada.ca/lumière. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Au revoir, à mercredi pour plusieurs d'entre vous et à dimanche prochain pour tous les autres.